L'heure de retrouver Norbert Navarro. Bonjour Norbert.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
C'est la revue de presse avec à la une de la presse hebdomadaire, l'introuvable politique africaine de la France.
Oui, on l'a vu cette semaine à Abidjan, le sommet Union africaine-Union européenne, qui devait être essentiellement consacré à la jeunesse, a été dominé par le drame des migrants à la suite de la diffusion par la chaîne de télévision américaine CNN d'une vidéo montrant un marché aux esclaves en Libye. Et cette semaine, Le Figaro Magazine s'est rendu dans l'antichambre de l'enfer libyen à Agadez, au Niger. C'est le point de passage obligé pour les migrants qui veulent gagner la Libye, puis l'Europe. On y trouve aussi ceux qui en reviennent. Malgré les récits atroces des recalés, les candidats au voyage continuent de rêver, constate le Figmag, dont le récit pourtant incite à tout, sauf à la rêverie. Que faire ? C'est en Afrique que se sont reconstitués des marchés aux esclaves, CFAR, L'Express. Alors, cet hebdomadaire prévient, si l'Afrique est un enfer, la France n'y trouvera aucun débouché économique. Si l'Afrique ne se développe pas très vite, plus vite qu'au rythme actuel, le pire est vraisemblable, prévient l'hebdomadaire. L'Express, en conséquence, s'interroge. Pourra-t-on longtemps croire que les Africains ne quitteront pas bientôt ce continent par dizaines de millions si rien ne change ? Pourra-t-on longtemps croire qu'on pourra s'opposer à la venue chez nous de ceux qui fuiront cet enfer ? Pourra-t-on longtemps croire qu'on pourra décemment les y renvoyer ? En guise de politique vers les pays africains, ce journal préconise d'ignorer leur gouvernement autant que possible pour parler à leur peuple et les aider à se prendre en main en soutenant en particulier les magnifiques jeunesses qui ne demandent qu'à servir leur pays, énonce cet hebdomadaire.
Football à présent, il n'y a pas que le tirage au sort de la Coupe du Monde dans la presse sportive. Cette semaine, il y a aussi des paris truqués.
Oui, pour la première fois, l'ombre des réseaux criminels asiatiques plane sur le foot français, constate l'Équipe Magazine. Les 5 et 6 octobre 2016, le franco-sénégalais Matar Fall et le franco-haïtien Dominique Jean Zéphirin ont été mis en examen pour corruption passive et participation à une association de malfaiteurs, révèle ce journal. Les deux hommes sont soupçonnés d'avoir accepté de l'argent pour perdre 2 matchs. Les faits remontent au 9 mai 2014, lors d'un premier match bien confidentiel à Fréjus, dans le sud de la France. L'équipe locale, ce jour-là, reçoit celle de Colomiers dans le cadre du championnat de France de football de 3e division. On joue depuis 3 minutes lorsque soudain, Matar Fall, capitaine de Fréjus, adresse une passe en retrait vers son gardien, Dominique Jean Zéphirin. Le ballon file devant lui et termine sa course au fond des filets. Sur ce but contre son camp, comme sur les 3 qui suivent rapidement, les 2 joueurs semblent à côté de leur pompe, comme au ralenti, relate l'hebdomadaire. Après seulement 22 minutes de jeu, Fréjus est mené 4 buts à domicile par Colomiers, qui n'a pourtant plus gagné depuis 13 matchs, souligne l'Équipe Magazine. Digne d'un polar, la suite serait trop longue à rapporter ici, mais cet hebdomadaire révèle qu'à l'autre bout du monde, en Asie, des mafias des paris en ligne s'en sont mis plein les poches grâce à ce match truqué. On croyait le foot français à l'abri de ces trafics, on avait tort. La France est à son tour touchée, lance l'Équipe Magazine.
C'était il y a 3 ans, lors d'une réunion secrète du groupe de Bilderberg, Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots pour critiquer François Hollande.
Alors, secrétaire général adjoint de l'Élysée, le futur président français, entre le 29 mai et le 1er juin 2014 à Copenhague, au Danemark, était l'invité de ce cénacle très fermé qu'est le groupe de Bilderberg, le club le plus fermé au monde, raconte le journal du dimanche. Durant ces 3 jours à huis clos, Emmanuel Macron a pris la parole pour dire tout le mal qu'il pensait de la politique menée par son président François Hollande, rapporte cet hebdomadaire. Dans la salle, Fleur Pellerin, pourtant alors ministre de François Hollande, confirme au JDD. Je n'en ai jamais rien dit à personne. Il est vrai que sur le coup, j'en ai été un peu choqué, même si j'avais entendu dire qu'Emmanuel Macron se démarquait déjà de François Hollande. 9 jours après cette réunion secrète, le futur président quittera l'Élysée, où il sera rappelé 3 mois plus tard par François Hollande comme ministre cette fois-ci. S'il avait eu un compte-rendu du Bilderberg, le président socialiste aurait-il nommé à Bercy son futur Brutus, se demande le journal du dimanche.
Enfin, ces révélations dérangeantes sur une star déchue de nouveau dans la tourmente, Bertrand Cantat.
Étant rappelé que lors d'une dispute en juillet 2003 à Vilnius, en Lituanie, l'ex-chanteur du groupe de rock Noir Désir avait tué sa compagne Marie Trintignant, fille du comédien Jean-Louis Trintignant, en la rouant de coups. Étant également rappelé que pour ces faits, Bertrand Cantat a été jugé, condamné et qu'il a purgé sa peine, un des membres de Noir Désir l'accuse cette semaine dans le magazine Le Point d'avoir notamment tenté d'étrangler une de ses compagnes à la fin des années 80. Lors du procès du chanteur à Vilnius en 2004 pourtant, ses ex-compagnes n'en avaient pipé mot lorsqu'elles avaient été interrogées, et notamment son ex-épouse Christina Radi, laquelle déclarera sous serment que Bertrand Cantat n'avait jamais levé la main sur quiconque avant la nuit qui fut fatale à Marie Trintignant, ni sur moi, ni sur une autre, avait-elle dit. Les trois autres membres de Noir Désir n'avaient pas dit autre chose à la barre. 14 ans plus tard, les langues se délient. L'un de ses membres de Noir Désir, donc, témoigne anonymement dans Le Point pour y dénoncer l'omerta autour de Bertrand Cantat. Christina m'a vu et elle m'a demandé à moi et à tous les autres membres du groupe de cacher ce que l'on savait. Elle ne voulait pas que ses enfants sachent que leur père était un homme violent. Je savais qu'il avait frappé la femme avec qui il était avant Christina. Je savais qu'il avait tenté d'étrangler sa petite amie en 1989. Je savais qu'il avait frappé Christina, mais ce jour-là, nous avons tous décidé de mentir. Nous étions tous pris sous son emprise et nous pensions qu'il se soignerait, dit-il au Point.
C'était la revue de presse de Norbert Navarro.